Bonjour à toutes et à tous, les chroniques financières, c'est sur CFM Rhodes, une émission proposée par Steve Bono. Salut Steve.
Salut David.
Steve, on le rappelle, conseiller en
financier
à ICA Finance dans le centre-ville de Rhodes et Steve qui a bourlingué. On peut le dire, ça ne te dérange pas.
On peut le dire aussi.
À travers la planète financière de nombreuses années avant de revenir en Aveyron. D'ailleurs, ouais, la planète finance et la planète tout court, on va en parler dans cette nouvelle émission, puisque tu as eu envie de déblayer un peu le terrain sur ces sujets qui sont peut-être un peu lointains parfois pour nous. Steve, tu as eu envie de parler aujourd'hui dans les chroniques financières des BRICS, du dollar et des États-Unis.
Exactement.
Hein ? Alors là-dedans, bon, on va commencer par le premier terme qui est peut-être le moins évident à moi aussi d'ailleurs. Les BRICS.
Alors les BRICS, c'est un acronyme qui a été formulé par, je crois, un analyste financier de Goldman. Oui. Et les BRICS, en fait, ça désigne des pays en développement, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et puis le S de l'Afrique du Sud.
Ouais, voilà. Alors des pays en développement, de bons gros pays.
Ah ben, et c'est ça qui est très intéressant. Exactement. Ouais. C'est des pays quand même qui, tant même du point de vue des ressources naturelles que de la population, que des. Quand même un poids certain.
Ah ouais, parce que rien qu'en population, il y a plus de la moitié de l'humanité là-dedans.
Entre y a du monde.
Chine,
hein.
Voilà. En surface de pays,
pareil,
l'Inde, la Chine, le Brésil, la Russie, ça fait des hectares.
Exactement.
Et ouais, en puissance économique, bon bah...
Il commence à s'affirmer, c'est ça qui est vraiment intéressant. Mmh. Parce que là, ce qu'on commence à voir, on n'est plus dans les discussions maintenant. Hein.
Mmh.
Il y a vraiment un engouement autour des BRICS, de former une sorte de troisième pôle, on va dire, puisqu'on a donc l'Europe, on aura la Russie potentiellement, et puis là, la Russie justement en fait partie de ces BRICS-là, donc
ouais.
On n'est plus vraiment... dans un monde unipolaire comme on l'a connu ces dernières années. Là, ça commence à bien se structurer même.
Alors ouais, justement, parce que les BRICS, j'en ai entendu parler, mais c'est une appellation entre guillemets de journaliste de politique, ou c'est une structure comme, alors peut-être pas comme l'Union européenne, mais c'est une organisation avec
voilà.
Des règles entre les pays et je ne sais quoi.
Maintenant, c'est plus une organisation. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent de créer, ou ils sont sur le point de créer, leur propre banque de développement. Et là, on s'écarte en fait.
On en a une en Europe, sa banque de développement, ça me dit quelque chose. Il y avait Atali qui s'en occupait à un moment donné, non, ou quelque chose comme ça.
Enfin, oui.
On a entendu parler de ça, mais à part avoir entendu parler...
Alors, il y a la Banque européenne d'investissement,
ouais,
il y a la BRED
aussi. Ouais.
C'est alors la Banque européenne de la reconstruction et du développement, quelque chose comme ça,
d'accord.
Je ne me rappelle plus exactement. Mais ce qui est vraiment intéressant là, c'est que la Banque mondiale, par exemple, elle est plus ou moins contrôlée par les États-Unis.
Oui.
Et donc là, dans ce mécanisme de BRICS, dans ce qu'on est en train de voir émerger... c'est que le fait qu'ils veulent créer leur propre banque de développement, ça en dit long sur l'état d'esprit, en fait, des relations entre ces pays-là et les États-Unis. C'est quand même des relations qui étaient structurantes avant.
Enfin, oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire.
Et
parce qu'en soi, une banque de plus ou de moins, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une banque en plus ? Après, il y a peut-être les fonds qu'il y a dedans. C'est ça qui compte ou c'est le symbole d'une organisation où dedans, il n'y a pas les États-Unis qui vont décider
exactement.
D'un développement ?
Déjà, c'est ça. Je pense que c'est un message politique très fort. Donc là, il y a vraiment... je veux dire, une remise en question, en fait, de la dominance US.
Ouais.
Voilà. Et deuxième point très important, c'est que cette banque de développement, l'idée sous-jacente, quelque part, alors, c'est certainement à terme, mais ça va être probable de créer une devise séparée du dollar ou de l'euro. Une sorte de troisième devise internationale.
Une nouvelle monnaie ?
Possiblement.
D'accord.
Mais l'idée,
comme nous,
c'est
on a l'euro, il se fera un truc entre eux ?
Il pourrait se faire un truc entre eux. Alors, c'est pas pour demain.
Ouais. Mmh.
C'est pas pour demain. Mais l'idée sous-jacente, c'est vraiment de dédollariser, en fait, la dépendance de ces pays, hein, tu vois, au dollar, donc aux États-Unis. Parce que, évidemment, quand tu es les États-Unis, que tu contrôles, en fait, ce que tu peux faire avec les dollars, avec qui tu peux commercer, etc., etc., t'imagines bien que c'est quand même des contraintes. Certaines, on va dire.
Ouais, parce que, alors, ouais, pour le dire vite fait, et tu me corriges si je dis une bêtise dans mon résumé. Ouais, les États-Unis, sur leur monnaie, ils ont un droit total.
C'est souverain.
Voilà.
C'est un droit souverain, mais par contre.
Ouais, mais par contre, nous, on a l'euro, par exemple, ou même le franc, à une époque, je me souviens pas, mais tu pouvais interdire à des gens de négocier avec du franc, même s'ils le faisaient entre d'autres pays à l'extérieur.
Ah, ben, tu peux.
Pas.
C'est ce que.
S'il y a du billet qui circule, il circule.
Alors, sur des espèces, probablement, mais sur les systèmes de paiement, par exemple, les États-Unis, le SWIFT, Tous ces systèmes de paiement électronique qui sont contrôlés, on va dire, par l'Occident, rien ne t'empêche, et c'est la base en fait de ce qu'on appelle l'extranéité des lois américaines. On l'a vu dans les sanctions, par exemple contre BNP ou d'autres. Quand ils ont fait du commerce avec un pays que les États-Unis n'aiment pas, ils ont utilisé du dollar et les États-Unis se sont servis de ça pour les sanctionner.
Voilà.
Donc ça, alors que juridiquement, ils n'ont aucune... Ils n'ont aucune légitimité à imposer au Soudan ou à la France le fait
de faire ce qu'ils
du
veulent.
Commerce entre eux.
Ouais, bien sûr.
Mais le simple
pas
fait,
avec du dollar.
Voilà, le simple fait d'utiliser la monnaie américaine fait que ça a servi de base à la sanction.
Bon, après, les autres pays, quels qu'ils soient d'ailleurs, on peut comprendre que certaines fois, ils ont envie de commercer ou d'échanger sans que les États-Unis puissent dire quoi que ce soit.
Exactement.
Donc, on peut les comprendre.
Oui, c'est tout à fait compréhensible.
Mais alors, tu nous disais, quelles conséquences pour les États-Unis et le dollar ?
Si de moins en moins de personnes utilisent le dollar, ça veut dire quoi ? Il ne faut pas oublier en fait que jusqu'à présent, ce qui se passait, c'est que les États-Unis payant tout en dollars, beaucoup de pays se sont retrouvés à accumuler des réserves de change, donc en dollars, qu'il fallait recycler, donc renvoyer dans des investissements aux États-Unis.
Ah, pour acheter des choses en dollars.
Pour acheter, par exemple, la Chine, c'est le plus gros détenteur de bons du Trésor américain. Parce qu'ils avaient besoin de recycler ces dollars. Tu ne laisses pas les dollars, en fait, ou l'argent en compte en banque sans rien faire. Alors, si tu as moins, en fait, de réserve de change parce que tu fais autre chose, ça veut dire quoi ? Comment ils vont financer leurs dettes, les Américains ? C'est-à-dire, passer un moment, tous ces investissements en dollars, si tu n'as plus besoin de les détenir en dollars, tu vas les vendre.
Ouais.
Si tu les vends, ça va faire baisser le cours. Donc, tu peux entraîner, en fait, tout un mécanisme de pression à la baisse des marchés simplement par le fait que tu utilises beaucoup moins de dollars.
D'accord.
Et ça, c'est quand même inquiétant.
Ouais. Mais après, on entend aussi là, dans le contexte de ces choses-là, que si les Chinois ils prenaient de la dette américaine, c'est aussi pour tenir un petit peu à leur façon les États-Unis par les bourses.
C'est ça, exactement. En plus,
un peu.
Si tu commences
à... Donc là, ils s'en priveraient.
Ils s'en priveraient, donc c'est pour ça que je te dis que c'est pas pour demain, à mon avis, mais c'est quand même un coup de semonce.
Ah, d'accord.
Tu vois. Et deuxième point aussi, si vraiment ils devaient utiliser un système comme ça, certainement qu'il faudrait que le yuan ou le renminbi soit plus... soit sur des régimes de change un peu moins gérés ou administrés, donc beaucoup plus volatiles, ce qui aurait aussi ça des conséquences aussi sur l'économie domestique, etc. etc. C'est quelque chose à double tranchant. Je pense que les Chinois ne sont pas forcément très pressés non plus de se débarrasser en fait, de leurs réserves de change en dollars. Ceci dit, étant donné le contexte de tension entre les États-Unis et la Chine, c'est quand même... un petit coup de semonce, on va dire.
D'accord, donc tu le prends comme ça. Et alors le yuan, la monnaie chinoise dont tu parlais, c'est vrai qu'on l'entend depuis quelques temps déjà. Tout dernièrement, je ne sais plus, c'est l'Arabie Saoudite qui avait négocié avec je ne sais plus quel... avec la Chine sûrement, pour lui payer, du pétrole en yuan.
Alors attention, ça c'est un truc très intéressant. Il y a Total qui était la première entreprise à avoir payé, sauf erreur de ma part, ou à avoir vendu du pétrole en yuan. Et ça, c'est exceptionnel.
Qu'ils en avaient dans la caisse.
C'est-à-dire que c'est surtout qu'ils ont eu l'autorisation, je pense, du gouvernement pour le faire.
Français ?
Ah oui.
Ah ouais, carrément pour...
Je pense.
Tu vas faire ton plein d'essence, tu payes en yuan, tu demandes au gouvernement.
Disons qu'il y a quand même des conséquences géopolitiques.
Si c'est des grosses sommes. Bien sûr.
C'est quand même des signaux que tu envoies à ce niveau-là, je pense. Donc, à mon avis, ça a dû se faire en toute concertation avec les autorités. Après, tu as raison. Ce qui se passe maintenant, au moins entre le Moyen-Orient et la Chine, c'est extrêmement intéressant. Il y a eu, je crois, dans les derniers jours qui sont passés, 8 milliards de dollars de contrats signés entre des Chinois et des Saoudiens. Et le ministre, alors je ne sais plus quel ministre saoudien a déclaré, les États-Unis n'ont pas protesté, mais il a déclaré de toute façon, nous on est des hommes d'affaires, on va traiter là où il y a de la demande. Donc les États-Unis, que vous soyez contents ou pas contents, quelque part, c'est pas notre problème. Là aussi, on est en train de changer en fait, il y a quelque chose qui change. les Saoudiens, c'était quand même les alliés régionaux des Américains.
Bah, historique, on a toujours présenté comme ça, comme la monarchie placée là par les États-Unis, les marionnettes des Américains. Moi, j'ai entendu ça toute ma jeunesse.
Ah bah oui, mais là, apparemment, pas là trop, ils pas perdent un petit ça. Peu pied quand même sur au Moyen-Orient, parce que c'est quand même la Chine qui a permis le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Bah, c'est quand même diplomatiquement vraiment très intéressant ce qui se passe.
T'es déjà allé en Chine, toi ?
Non.
Non. Donc t'as jamais eu à changer notre monnaie contre du yuan ?
Ouais.
Bon. Non. Et comment ça se passe ? Ouais, tu nous disais là-bas où il y a un cours qui est fixe, comme on l'a connu en France dans les années 80. Ouais, on a connu ça à une époque. Moi, j'ai connu ça quand j'étais tout petit.
C'est semi-flottant, c'est administré. Donc ils font. C'est un peu, tu te rappelles, le serpent monétaire ?
Ça pouvait monter cours, plus 3, moins 3%, et après, non.
C'est un petit peu ce qu'il y a en place.
D'accord, mais il y a un marché ?
Oui, il y a un marché, ouais.
On peut acheter du yuan, même papier, enfin, même numérique, quoi ? La monnaie yuan ?
A priori, oui, puisque de toute façon, c'est quand même un pays qui s'ouvre au tourisme aussi, hein, donc il faut bien qu'il dépense en billets local.
Ouais, mais je reviens un peu à la finance, au business. Ouais. Il y a des gens qui sont sur les marchés d'échange et puis qui ont fait beaucoup d'argent sur des mouvements de change.
Ah bah oui.
Le yuan, tu peux jouer dessus ?
Alors ça, je sais pas. Je voudrais pas te dire de bêtises. Je sais pas, parce que c'est quand même une devise particulière.
Ouais.
Donc vu que c'est administré, donc ça veut dire quand même que la banque centrale intervient, elle donne peut-être des autorisations, tu vois, d'acheter des devises étrangères si tu as une raison d'exporter ou d'acheter, etc. Donc à voir.
D'accord. Bon, alors tout ça, moi j'ai envie de te dire, Steve, c'est bien de nous tenir au courant de ce qui se passe, et puis éventuellement des développements à terme mondiaux. Bon, quelles conséquences concrètement, tu vois, j'ai envie de te dire, même presque jusqu'à chez nous en Aveyron, quoi. Bon, pour l'instant. Qu'est-ce que ça...
Effectivement, vu sous ce point-là, on peut se poser la question de manière tout à fait légitime.
Ou même quand on a un peu d'épargne, là, ces derniers temps, qu'on se dit où on voudrait les placer. Bon, on ne peut même pas acheter des yuan.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de toute façon que la croissance se décale vers l'Est de plus en plus, pour des raisons X, Y, Z. Donc là, en fait, avec ce mouvement des BRICS, ce qui pourrait se mettre en place, c'est peut-être une réorientation des flux commerciaux, à savoir. Donc c'est quand même des pays qui sont... en croissance intéressante.
Ouais, mais j'ai envie de te dire, mais entre eux, parce que bon, les Américains, mais après, tout le monde fait de l'argent où tu peux en faire, et les Européens, ces derniers temps, aller en Russie, non. Aller en Chine, on y va encore, mais on commence à se dire, peut-être pas pour des trucs dont on aurait besoin tout de suite maintenant, et c'est urgent. Le Brésil, on sait jamais trop par qui c'est commandé.
Il y a toujours des risques politiques.
L'Inde.
C'est sûr.
Faut trouver la bonne adresse, t'es pas sorti de l'auberge.
Ah oui, c'est compliqué.
Et puis sens africain, ça fait loin aussi.
Oui, mais n'empêche que, comme on disait au début, c'est quand même d'un groupe de pays qui représente un certain pourcentage et de la population mondiale, et des ressources naturelles, et de plein de choses.
Ouais.
Donc, c'est en fait l'idée pour eux de se rassembler, c'est quand même pour peser davantage en fait dans les décisions du monde. Et ça veut dire quelque chose quand même.
Mmh.
Il va bien falloir en fait... en tirer parti d'une manière ou d'une autre.
Tirer parti, nous
ou... la France.
Ah ouais, comment tu veux tirer parti d'un truc où les mecs, ils se barrent de chez toi, ils trouvent que c'est mieux ailleurs.
Oui, mais par exemple, en commerçant, réorientant aussi, on a une relation qui est intéressante avec l'Inde, pour des raisons X, Y, Z, notamment du point de vue de la défense.
Ouais, militaire surtout.
Militaire.
Sinon, de mémoire, à part ça, on leur a pas laissé que des bons souvenirs non plus aux
Indes. Non, mais... Bon. On est quand même en place, on a une relation. La France a légitimement un intérêt à développer son empreinte dans cette région-là, parce que, ne serait-ce que par notre ZEE, donc notre zone économique exclusive,
Ouais, mais bon, et nous, on est 50 millions en Inde, c'est deux villages.
D'accord.
Donc, tu vois, pour les intéresser, alors nous, il y a la Tour Eiffel, mais tu leur fais le coup une fois, quoi. Tu vois.
Et c'est là où il va falloir la jouer fine. C'est-à-dire qu'il faut quand même aussi qu'on prenne conscience d'une chose, c'est que tu te rappelles, en fait, au début des années 80, quand nos élites parlaient de la Chine, ils leur disaient, on leur vendra des Airbus et on leur achètera des chaussettes,
ça. Ouais.
Là, on a dépassé un peu ce stade-là. Maintenant, il est temps, en fait, de...
Ils sont pas loin de nous vendre des Airbus.
Ils sont pas loin de nous vendre des Airbus. Ouais. Ils commencent à nous vendre des voitures électriques de manière très agressive. Ben exactement.
Nous, on se met à faire des chaussettes. Donc,
Il faut peut-être sortir, en fait, des sentiers battus des 40 dernières années et commencer à réfléchir sur des choses un petit peu plus pragmatiques.
Alors, parce que donc on déménage ou quoi ?
On déménage pas, mais simplement, en fait, on pourrait augmenter, à faire les flux commerciaux avec cette partie-là du monde. trouver des solutions.
Mais qu'est-ce qu'on a à leur vendre, Steve? À part un savoir-faire, le tourisme, ok, les trucs qu'on est fort, hein, donc voilà. Oui. Le pays, bon.
Ah mais on est quand même.
Même l'éducation, on peut plus la ramener.
Ah oui, non là. Donc, bah alors, ce qui est d'autre, alors ça, en fait, même sur l'éducation, c'est intéressant. Voilà, c'est des experts ou enfin, c'est ce qu'on entend dire, c'est que eux ont adopté des méthodes éducatives que nous on avait avant. C'est quand
dans
même
les années 50, oui.
C'est quand même ahurissant, quoi, quelque part.
Ouais, mais si ça se trouve, dans 50 ans, ils seront comme nous maintenant. Parce qu'ils diront, bon, on a peut-être un peu poussé, il fallait développer le pays maintenant, il n'y a plus que des vieux, les jeunes, on s'en fout. Allez.
Ouais, à savoir, oui.
Ouais, on verra.
On verra bien.
Donc, oui, les perspectives pour toi, elles restent quand même.
Moi, je trouve que c'est intéressant.
Ouais.
Je trouve que c'est intéressant ce qui se passe. Ce que j'aimerais, en fait, c'est voir en fait, qu'on puisse réfléchir collectivement à comment on va exploiter quelque part, hein, ou quel intérêt on va pouvoir trouver pour le pays, hein, ben de s'intégrer de plus en plus dans des flux commerciaux et autres, avec des pays qui ne sont pas forcément sur les mêmes longueurs d'onde que
c'est
nous.
C'est ce que j'allais te dire, parce que même, tu vois, même sans aller politiquement ou même moralement, te dire, allez, c'est le club business, il se fait, c'est en Russie, bon, l'autre, c'est un plus ou moins un régime autoritaire, nanana. En Chine, c'est à peine mieux, mais bon, c'est pas terrible. L'Inde, il paraît que le gars a été élu, mais bon, il y a des choses à dire. Afrique du Sud, bon, à la limite, là, on va rien dire.
Vaut mieux,
ça peut aller. Et puis Brésil, on va dire, semble-t-il, ça va mieux, mais pas depuis longtemps.
D'accord.
Depuis quelques mois, tu vois. Donc, ça donne pas envie d'aller soutenir des pays où les gens, ils sont encore plus maltraités que chez nous.
Ben oui, d'accord, je suis d'accord sur le fond. Mais en réalité, quand tu regardes bien, il faut savoir ce qu'on va faire.
La Suisse n'a pas besoin de beaucoup d'aide.
Voilà.
C'est vrai que là-bas, tout va bien, mais ils ont besoin de rien.
J'ai envie de te dire que lorsqu'on était, en fait, il y a 50 ou 70 ans derrière, et qu'on pouvait dire à ces pays-là, bah, écoutez, regardez, nous, voilà ce qu'on a fait, on a eu la Révolution française, etc., les droits de l'homme, c'est très bien, j'entends. Maintenant, en fait, qu'ils nous ont un petit peu rattrapés, c'est un discours qui est beaucoup plus difficile à faire passer. Tu peux pas imposer quelque chose à des gens qui n'ont pas du tout la même culture ou qui ne voient pas les choses de la même manière. À la rigueur, tu peux leur montrer comment ça se passe ici et advienne que pourra. Mais ça veut, si tu te tires une balle dans le pied en disant on ne va pas commercer avec ces pays-là, toi, tu as une population aussi qu'il faut développer. Il faut nourrir. Les gens ont besoin de travail. Les gens ont besoin de se déplacer.
Alors, les BRICS, le dollar et les États-Unis, hein, c'est le thème des chroniques financières cette semaine sur CFM Rhodes. Donc, cette organisation, ce qui est en train de se faire là, dans quelle mesure, qu'est-ce qui apparaîtra comme signe ou qu'est-ce qui apparaît comme signe pour nous dire que le monde il a changé, que c'est plus les États-Unis? Parce que c'est vrai que là, en puissance économique, en nombre d'habitants, en taille de tout, c'est déjà plus grand les BRICS, mais c'est quand même pas eux qui commandent le monde.
Non,
a priori, ça reste les États-Unis. Bon, ce serait quoi le signe de vraiment, c'est plus le cas? C'est la monnaie, ils fabriquent des pyramides.
Déjà, oui, déjà, s'ils arrivent par exemple à faire une sorte d'euro façon BRICS, ça sera là plus qu'un signal. Donc, mais je pense qu'on...
Mais personne ne voudra dans ces mecs-là. Déjà, nous, on a eu du mal à accepter de lâcher le franc. Mais alors, ces mecs-là où
je suis d'accord. Mais s'ils arrivent ne serait-ce qu'à développer un système un peu en vase clos entre eux, de cautionnement de prêts, de financement dans des conditions un petit peu, privilégiées, qui ne dépendent pas de l'aval, en fait, d'autres États à l'extérieur, contrôlé plus ou moins par les Américains, ça sera déjà vraiment pas mal. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les BRICS, ce n'est pas que les BRICS. Tu as des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis qui ont candidaté.
Ah oui, j'ai entendu ça. Mais rapidement, il y a 30-40 pays qui vont
rejoindre. Il y a beaucoup de pays qui vont candidater, des pays d'Afrique aussi. Et je suis désolé, mais là quand même, nous, on a une carte à jouer. Je veux dire, on pourrait aussi redéfinir en fait nos relations avec le continent africain.
Oui, mais ils disent ça tous les 5 ou 10 ans.
Parce que personne, en fait, soit ne réfléchit correctement ou ne voit le potentiel.
Il y en a quand même qui font des Français qui font des sous en Afrique. Hein.
Mais bien sûr. Après, ouais. c'est quand même un pays qui est jeune. Enfin, c'est un continent qui est jeune, qui a des ressources.
Bon, qu'est-ce qui nous manque alors? Pour réagir, comprendre.
Alors là, je vais peut-être pas faire plaisir à beaucoup de monde, mais je trouve que ce qui manque, c'est une vision et un courage politique. Déjà, nous aussi, de dire aux États-Unis que Dans bien des cas, je trouve qu'ils vont un peu loin. Hein, parce que c'est quand même c'est pas des enfants de cœur, les Américains.
Ah bah non, non.
Voilà. Passer un moment, il faut comprendre que nous, on a aussi nos propres intérêts à défendre. Faire partie d'une alliance, bah, très bien, ok. Mais je vais poser la question de Béotien. L'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Qu'est-ce que ça va faire en Asie?
Oui, non, c'est sûr.
Passer un moment, il faut se poser la question. Donc, voilà. Moi, ce que j'attends, en fait, de l'Europe, ce que j'attends de la France, c'est le moment de se dire, maintenant, on joue pour nous. Je veux dire, voilà, il faut quand même avoir le courage de défendre ses intérêts, y compris face aux Américains, parce qu'eux ne font pas de cadeaux.
Ouais, mais c'est compliqué, parce que nos intérêts, depuis un moment, ils sont mélangés avec ceux des Américains. Donc, nos intérêts, c'est pour beaucoup, dans ce qui est établi, c'est pas mal. Bah, c'est construit comme ça, ça a été fait comme ça.
Ça a été fait comme ça, mais rien ne nous empêche de développer, justement, d'autres avenues.
Bon, je vais y revenir une dernière chose plus terre-à-terre. Steve, là, on est à la mi-mai, passé à peu près. Les marchés financiers, bon, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Bon, ça dépend. Ouais, c'est un peu plat ces derniers temps. En France, ça a peut-être un peu baissé.
Pour l'Europe,
bon,
c'est, ouais. Voilà, c'est un
mais
petit
on fait quoi on, t'as, tu, toi, tu, avec ce que tu viens de nous dire dans cette émission ou l'actualité par ailleurs, on change quelque chose ou les actions, tu trouves toujours ça bien, prometteur?
Pour une partie, de toute façon,
ouais,
il faut toujours
partie,
en
sûr,
avoir.
Bien sûr, ouais, ouais.
Dans le portefeuille, moi, ce que je faisais depuis un petit moment, c'est que j'accumule des positions sur l'Inde. Voilà. Parce que je voulais jouer justement en fait, cette croissance potentielle des BRICS.
Ouais.
Le marché indien, il y a quand même des fonds en fait, qui permettent...
Ah, tu peux acheter de l'Indien?
Tu peux acheter des entreprises à travers des fonds, des OPCVM.
D'accord. En France.
Y en a, oui, oui, qui sont listés de...
Ah,
peu
ouais,
importe.
Qui vendent les entreprises indiennes.
Exactement.
Ah, bah, dis donc.
Donc ça, c'est super. Hein.
Bah ouais.
Après, enfin, tu peux faire la même chose aussi avec la Chine, etc. Ouais. Bon, ouais. Si tu veux, moi... La Chine, c'est quand même beaucoup plus opaque malgré tout. Hein.
Oui.
Potentiellement, ils ont un très, très gros problème immobilier à résoudre.
Mmh.
Bah, tu l'as vu, on en parlait ces derniers temps. En fait, la croissance chinoise peut être ralentie, etc. Mmh. D'ailleurs, c'est pour ça que tu vois que le cours du pétrole est à la baisse.
Ouais,
malgré
ouais.
ce que...
Pas le prix de l'essence, hein, mais bon... Enfin,
ah, ça, c'est autre chose.
Ouais. Mais le prix du pétrole, il est à la baisse.
Ah oui, il est à la baisse. Parce qu'il y a des craintes, évidemment, sur la croissance, et en particulier la croissance chinoise. Et pas, enfin, la Chine, c'est quand même le plus gros importateur de pétrole du monde.
Ouais, bah, ils n'en ont quasiment pas.
Voilà. Mais voilà, donc je trouve intéressant en fait, de se positionner, de jouer cette dynamique BRICS hein, à travers des pays comme l'Inde. C'est quand même un marché qui est important et qui est maintenant bien, où il y a quand même des produits pour jouer.
D'accord.
En évitant aussi toute la partie vraiment très opaque de ce qui se passe en Chine.
Ouais.
Voilà.
Bon, on se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien. Steve, si tu le veux bien, évidemment.
Mais bien sûr.
En attendant, merci beaucoup pour cette nouvelle émission. Et puis, bonne semaine à toi, Steve.
Merci, David, toi aussi.